Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là ce soir pour cette rencontre croisée autour de deux ouvrages. Et nous avons la chance d'avoir leurs auteurs et autrices présentes avec nous. Donc Émilien Bernard pour Forteresse Europe, je vais lire le sous-titre, Enquête sur l'envers de nos frontières, paru aux éditions Luxe. Et Marie Cosnet qui revient nous présenter le troisième volet d'une enquête, une histoire orale des migrants en Méditerranée, donc des îles, paru aux éditions de l'Ogre, il y a quelques semaines ou quelques mois. Et voilà, on est ravis de pouvoir organiser cette discussion. Et on compte aussi sur la présence, on a répété juste avant, mais de Sabine Meyer, donc doctorante en sociologie de l'immigration et de l'alimentation d'ailleurs, qui a accepté de modérer les échanges et d'animer la rencontre. Voilà, la rencontre est enregistrée comme chacune de nos rencontres et est disponible dans quelques semaines sur le site de Canal Sud et sur notre propre site. Voilà, on a toutes les archives audio de nos rencontres depuis quelques années qui viennent s'agréger et que vous pouvez retrouver souvent quelques semaines avant la rencontre. Donc n'hésitez pas à faire circuler le lien ou vous-même aller explorer les archives de nos rencontres. Voilà, merci, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je laisse Sabine présenter les auteurs et autrices ce soir.
Merci beaucoup de l'invitation par Ariel à Terra Nova. Alors voilà, je vais commencer par présenter du coup les deux auteurs de ces ouvrages. Je vais commencer par Marie Cosnet, qui est professeure de lettres classique, traductrice de textes antiques, écrivaine et présentée comme activiste pour l'accueil des migrants. Vous avez vous avez publié 32 publications, si j'ai bien compté, en 21 ans. Voilà, vous avez publié énormément d'écrits, de fiction, des écrits, des traductions de textes classiques. Et ici, nous présentons du coup le troisième tome de votre trilogie autour des frontières européennes, dont le premier tome s'intitulait Des îles, Lesbos 2020, Canaries 2021, publié en 2021. Le deuxième tome, Îles des faisans, 2021-2022. Et aujourd'hui, nous présentons donc La mer d'Alboran, 2022-2023, publié en début de cette année. Voilà. Pour ce qui est d'Émilien Bernard, vous êtes journaliste, écrivain, traducteur. Vous traduisez notamment des écrits autour de la musique, si j'ai bien vu.
Pas que,
ouais.
En majorité.
Ouais. Voilà, vous êtes cofondateur du journal Article 11, membre de la rédaction du journal CQFD. Vous écrivez beaucoup d'articles, dont notamment, qui constituent notamment l'ouvrage Forteresse Europe que nous allons présenter ce soir. Et Forteresse Europe est votre premier livre, votre premier ouvrage. Et vous avez des collaborations au journal Le Canard Enchaîné et Afrique 21, entre autres. Voilà. Alors pour commencer, peut-être lancer la discussion, partir peut-être de ce qui vous réunit autour de ces deux livres, qui est finalement le fait de dresser une sorte de fresque des frontières européennes à partir de plusieurs expériences et plusieurs écrits à partir de terrains J'emploie des mots sociologiques parfois, de terrain à différents lieux des frontières européennes, que vous appelez, vous, Emilien, forteresse Europe pour ce qui est l'Europe. Et donc, je voulais vous inviter à présenter, en fait, où vous êtes allé et pourquoi.
Tu veux commencer de...
Je vais me concentrer sur le troisième, hein, tome, celui qu'on présente aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, comme tu l'as dit, je peux tutoyer, activiste aux frontières, j'ai commencé par Lesbos, les Canaries, et l'idée était de voir si, après les accords qu'on sait en 2016 entre la Grèce et la Turquie, si les autres îles, en fait, comme les Canaries ou comme même les îles Baléares, deviendraient des îles prison comme l'était devenu Lesbos. Du coup, c'était ça qui me guidait et c'est sur la route d'Espagne, on va dire, que je me suis concentrée, puisque les autres routes étaient déjà... C'est pas pour ça, mais enfin bon, entre autres, les autres routes étaient un peu plus connues, un peu plus médiatisées, hein, la route méditerranéenne, la Libye, vous vous souvenez, bon, la Tunisie aussi. Et en revanche, la route espagnole, c'est-à-dire des gens qui partaient à ce moment-là de la Yune, on en reparlera, et de Dakhla, qui allaient aux Canaries, puis étaient envoyés sur la péninsule espagnole, où les gens dont on parle encore moins... qui partaient d'Algérie et qui arrivaient normalement du côté d'Almeria s'ils partaient d'Oran ou sur les îles Baléares s'ils partent d'Alger ou autour d'Alger. Cette route-là, qui est encore moins connue que la route atlantique, c'est vraiment cette invisibilisation en fait, de certaines routes qui m'a poussée à écrire ce troisième volume. Le deuxième étant consacré aussi à une route fort peu connue et bien plus surprenante, mais dont j'ai déjà parlé ici, donc je ne vais pas recommencer, mais c'est la route entre l'Espagne et la France, hein, puisque c'est une route qui fait des morts aussi, notamment dans la Bidassoa, et c'est le deuxième volume qui était consacré à l'île des Faisans. Voilà, donc c'est cette histoire d'île et cette histoire de vouloir mettre l'accent en fait, sur des routes dont on ne parle pas du tout. En fait. Et aujourd'hui, si vous voulez bien, moi en tout cas, dans les prises de parole, je me concentrerai sur cette route-là, notamment parce que nous avons avec nous le parent, sœur et beau-frère d'un des disparus de cette route-là, Amine. Voilà.
Et pour moi, alors, je pense aussi que ça s'inscrit dans un temps long, mais qui n'est pas le même temps long que toi. Alors, je ne sais pas, par exemple, quand tu es allé premier volume, je me rappelle plus combien de temps tu passes là-bas. Mais quelques mois, c'est déjà souvent plus que... que ce que moi j'ai pu passer sur certains endroits. Et puis là, par exemple, sur ce troisième tome, là, tu es sur vraiment un suivi. Bah, c'est aussi les lieux où tu habites, en fait, entre Almeria, Séville, Grenade. Voilà. Et moi, au départ, c'est un truc qui n'était pas forcément très formulé. En tout cas, l'idée de forteresse Europe ne m'habitait pas tant que ça, c'est plutôt que je participais à une certaine presse alternative, disons une presse qui ne se veut pas pareil, qui essaye d'aller chercher ailleurs autrement, qui ne se vend pas très bien, mais qui essaye d'aller des fois soulever des lièvres ou d'aller chercher des réalités en posant des mots crus ou enfin de creuser le sujet. Et par exemple, mes premiers reportages, c'était avec Article 11, et là, ça remonte à, je pense, une quinzaine d'années. C'était, je suis allé à Calais deux, trois fois. Je suis allé à Melilla, là, par contre, qui est vraiment une zone très particulière, qui m'a énormément marqué. Là, c'était en 2013. Melilla, qui est une espèce d'enclave espagnole au Maroc. C'est, si on ne voit pas ce que c'est un peu inimaginable, parce que c'est tout au nord du Maroc. À proximité de la... Enfin, même, ça touche la Méditerranée. D'ailleurs, Melilla, je ne suis pas allé à Ceuta, mais Melilla est aussi une ville touristique avec une petite plage magnifique, tout ça. Et de l'autre côté de Melilla, il y a un... Enfin, de l'autre côté Emelia, c'est un des premiers endroits, parce que moi, je travaille quand même beaucoup sur la réapparition des murs qui, après l'effondrement du mur de Berlin en 89 et toute cette espèce de baratin autour de l'espace Schengen, il y avait vraiment cette idée que les murs allaient disparaître, que ça a fonctionné pour les capitaux, ça, sur les humains, on a très vu de vie que c'était autrement. Et Emelia a été vraiment une des premières barrières à se reconstruire à la fin des années 90 et est maintenant devenue vraiment une espèce de super barrière avec une triple barrière, avec des capteurs sensoriels, toute une technologie, toute une industrie de l'armement d'ailleurs qui est impliquée aussi dedans. Et déjà en 2013, c'était déjà le cas. Et je me souviens, de l'autre côté, il y a cette montagne qui s'appelle Gourougou. Et c'est un endroit absolument fou parce que tu surplombes en fait cette enclave de Mélia en bord de mer, cette espèce de paradis, en tout cas pour touristes par moment. Et en même temps, il y a 4000 personnes qui vivaient dans des conditions majoritairement des subsahariens, un peu des maghrébins, et qui vivaient dans des conditions absolument terribles, et où il y avait les flics marocains qui, tous les soirs, passaient et opéraient des rafles, et venaient casser les poignets ou les chevilles de ceux qui chopaient, avec dans l'idée qu'ensuite, ils ne puissent plus essayer d'escalader la barrière. Et une espèce d'image terrible et vraiment une image que je garde de ce moment-là, enfin un dialogue, c'était un jeune Guinéen de 16 ans qui me disait « Ici, il y a des gens qui disent que c'est l'Europe qui paye le Maroc pour faire ça, mais moi, j'y crois pas. Pourquoi l'Europe, elle ferait ça ?» Et en fait, c'est un truc évidemment qui m'avait tourné dans la tête, où j'avais pas du tout quoi sur répondre, à part désolé, non, c'est pas ça, mais quelque chose comme ça. Et pour abréger, en fait, pendant longtemps, que ce soit Calais, Mélia, mais je suis allé à d'autres endroits, je les ai vus comme des zones de non-droit, genre des espèces d'excroissance maléfique, xénophobe. Et en bossant, et notamment dans le cadre d'un hors-série, des fois on fait des hors-séries sur ce journal qui s'appelle CQFD, auquel je participe beaucoup, et je coordonnais ce dossier, qui était un dossier qu'on appelait Forteresse Europe. Et là, j'étais allé en Serbie voir le mur d'Orban, Orban qui a construit en 2015 un mur complètement absurde à la frontière Serbie-Hongrie, et de voir que, en fait, plus tu creuses, mais aussi juste à côté de chez toi. C'est-à-dire, plus tu creuses, en allant chercher loin, en allant chercher à Laayoun, en allant chercher en Tunisie, en allant chercher dans les Balkans, mais en allant chercher aussi au coin de tes rues, moi, à Marseille, et en fait, cette forteresse, elle est partout. Et donc, c'est une forteresse de murs, et c'est aussi une forteresse politique, médiatique, administrative, et là je pense qu'on en reviendra aussi par rapport à votre cas, qui est en plus un cas très particulier, qui est un cas particulièrement. J'ai pas trouvé les mots, mais voilà. Et du coup, ce livre, il est né de reportages faits sur la longueur, sur la presse alternative pendant une dizaine d'années, puis à un moment de dire je vais compiler tout ça. Évidemment en retravaillant et en partant de zones quand même assez lointaines comme Laayoun au Sahara occidental c'est-à-dire un peu ce que j'appelle avant les frontières, avant les murs, même s'il y a déjà des frontières et des murs avant. Ensuite, une deuxième partie, c'est quoi affronter les frontières, c'est quoi affronter les barrières, ou c'est quoi affronter la mer. Et puis après, la troisième partie, c'est l'arrivée en Europe, le Boza, le premier paix, le pied. Oh putain. Waouh. Vraiment désolé pour ce lapsus. Le premier pied en Europe et dire après les murs, il y a des murs. même s'ils ne sont pas forcément matérialisés. Et voilà. Et c'est l'articulation de ce livre et qui, je pense, avait cette idée d'essayer de donner des cercles concentriques, mais qui donne une image un peu globale de ce que, en même temps, l'Europe, et en même temps, parce que ce n'est pas que des décisions européennes, c'est aussi des décisions nationales pour la plupart, mais de ce qui se construit et de manière a priori accélérée en ce moment, même si depuis longtemps il y a des vents mauvais qui soufflent, mais là ils soufflent à mon avis de plus en plus fort et voilà.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en lisant vos deux livres, si on ne le savait pas, hein, les frontières produisent énormément de morts. Et ces morts, en fait, donnent l'impression que c'est ce qui vous pousse à faire enquête, et parfois malgré vous. Parce que vous rencontrez des personnes que vous pouvez qualifier, que tu peux qualifier, Marie, de morts vivants, hein, des personnes qui ont survécu, mais aussi des personnes qui restent, qui ont eu des membres de leur famille ou des amis proches qui ont disparu ou qui sont morts. Du coup, je voulais vous inviter tous deux à parler de qu'est-ce que veut dire faire enquête quand on écrit un livre, quand on n'est pas forcément éprouvé à l'enquête en soi. Qu'est-ce qui vous pousse personnellement à visibiliser ces choses-là, qui sont en général de l'ordre du caché, de l'invisible, de ce qu'on ne veut pas montrer.
Comment c'est arrivé en fait? J'étais dans un mode de vie activiste, comme tu l'as dit, je reprends ce mot, je ne sais pas, militant, comme vous voulez, ça dépend. Je vis à la frontière basque, à la frontière entre l'Espagne et la France, au Pays basque. Je vois passer énormément de jeunes gens, notamment en 2020, qui restent à Bayonne, en fait, en attendant une sœur, un frère, quelqu'un qui va arriver, qui est passé par une île, qui est passé par l'Espagne, etc., qui va arriver. Et quelquefois, le frère ou la sœur n'arrive pas. Alors, on cherche, on enquête. Ça a commencé comme ça pour moi, c'était en 2020. Alors, je passe un peu sur ces années-là pour aller plus vite et aller au cœur du sujet. Et puis, je rencontre, alors jamais en vrai, mais sur les réseaux, comment ça s'est passé, par téléphone peut-être, plusieurs personnes. J'ai commencé à rencontrer réellement le cousin de quelqu'un qu'on attendait, comme ça, dont on savait qu'il était parti à telle date de Aïn Béniane en Algérie. Et ça, c'était en 2020. Et que jamais il n'était arrivé, mais que son père pensait qu'il allait arriver, et que son père pense toujours qu'il va arriver, et qu'un jour il va surgir. Et donc, à ce moment-là, parce que je rencontre les gens, et parce que moi-même, au début, j'attends et je cherche, sans savoir où chercher. Alors comment je suis à la frontière espagnole, mais tout ça se passe dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Donc c'est en prenant contact déjà avec les structures. Alors la première, la Croix-Rouge. La deuxième, l'Association pour les droits humains d'Andalousie, qui est une association qui fait du bon travail, mais qui n'a pas les moyens de le faire. Et puis après, à force de fouiller, de chercher les ONG, tomber sur une ONG qui s'appelle le CIPIMD, ce qui est une association pour des migrants. Alors, la fin, c'est pour les migrants disparus. Voilà. Et la recherche, c'est ça, hein, centre international de CIP. Le P, c'est quoi? J'ai oublié. Bon, CIPIM, de retenir. Donc, qui s'annonce comme une ONG basée à Malaga et dirigée par une femme qui s'appelle Maria Angeles. Et qui compte en son sein très peu de monde, finalement, hein, qu'on sache, mais un jeune homme très jeune qui s'appelle Francisco et qui travaille, qui est le délégué à Almeria, donc Almeria, lieu d'arrivée des bateaux, hein, dont elle parle comme son délégué à Almeria, etc. Et donc, suivant cette histoire et en suivant celle qui m'arrive soit par téléphone avec des familles touchées, en fait, éprouvées par l'attente, en fait, de leurs proches, de leurs fils, de leurs frères, de leurs sœurs, quelquefois, soit parce que je rencontre moi-même à ma frontière des gens qui attendent un frère, une sœur, eh bien, voilà, je me mets à chercher et je me mets à chercher en pensant comme les gens, comme les familles qui attendent, avec elle, ben que oui, en effet, je ne vois pas. Enfin, même moi, autant j'arrive à imaginer que dans l'océan Atlantique, un bateau puisse se perdre, autant dans cette mer d'Alborane, ça semble compliqué parce que c'est une mer qui, si on regarde un petit peu ce qui s'y passe, il y a tout le temps des grands cargos, il y a tout le temps des voiliers, il y a un passage incroyable en fait. C'est ça, ce qui nous rend la chose complètement incroyable à cet endroit-là, on est en 2020, c'est qu'il y a du passage tout le temps sur cette route, tout le temps. Et puis, il se trouve, alors on est en octobre 2020, on va, pour pas que ce soit trop confus, on va prendre un cas, parce que sinon il y en a tellement, et voilà. On est en octobre 2020, et l'association dont j'ai parlé, le CIPIM, de Marlène Angeles en personne, annonce à une famille, et puis encore une fois c'est un cas parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, que oui, le bateau est arrivé. Voilà, oui, le bateau est arrivé, mais... comme c'est normal en Espagne, comme c'est normal en Europe, ils vont être rapatriés, hein, ils vont être expulsés, mais ils sont pour l'instant, comme c'est le Covid, en centre de rétention. Donc les centres de rétention en France, on sait ce que c'est. En Espagne, c'est la même chose, mais je pense que c'est 60 jours hein, seulement le temps de rétention. Donc ils sont en centre de rétention. En réalité, ce qu'on sait à ce moment-là, c'est que même en centre de rétention, même si on ne peut pas avoir de téléphone portable, en fait, on en a. Et en fait, on peut communiquer. Même en prison, on peut communiquer, même si on n'a pas le droit de le faire. Mais en centre de rétention, on peut communiquer. Tous les gens qui ont été en centre de rétention, ils ont fini par communiquer. Peut-être ça va durer 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais ils vont se débrouiller pour avoir une carte, pour avoir quelque chose, pour avoir du réseau, etc. Et là, le temps passe, 1 jour, 2 jours, 3 jours, les fameux, et puis les 60 jours. Mais on continue à annoncer aux familles que les gens... sont là, qui vont être expulsés, que s'ils n'ont pas donné de nouvelles, c'est qu'ils ne voulaient pas en donner, etc. etc. Donc ça, c'est sur le récit sur lequel on va revenir. Mais dire, peut-être moi de mon côté, ce que je fais, parce que ça c'est pourquoi on le fait. Mais moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est, me rendre compte, même si c'est des choses qu'on sait intellectuellement, mais quand on ne les a pas vécues physiquement, je me mets à les vivre avec, à ma place, pas du tout en prenant la place, à ma place, c'est-à-dire ma place beaucoup moins affectée, évidemment, mais malgré tout, en même temps, et en suivant l'enquête, comme les familles, c'est-à-dire un jour espérant et ne pensant qu'à ça toute la journée, que oui, les enfants sont vivants, et que oui, on va les rencontrer, et que oui, un avocat va aller dans un centre de rétention et va nous donner une information. Et puis, le lendemain, en étant persuadé que peut-être, comme l'a dit Francisco, peut-être le bateau, un autre, s'est perdu et s'est retrouvé en Tunisie. Que oui, il y a des pirates dans la mer d'Alborane qui amènent les gens. Que oui, la Tunisie, c'était une dictature jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et que c'est les mêmes personnes qui sont les gardes civils, etc., qui travaillent. C'était les mêmes que sous... comment il s'appelle ? Ben Ali. Voilà. Et déjà financé par l'Union européenne, et que donc oui, c'est possible en fait qu'ils soient dans des prisons en Tunisie, parce qu'ils avaient dit ça au début, et puis le récit change tout le temps. Alors à un moment ils sont dans les prisons en Tunisie, parfois ils sont dans les prisons en Espagne, dans les centres de rétention, et parfois ils sont sur les bateaux de Frontex, parce que l'Europe bien sûr va leur prendre les organes pour les revendre, pour etc., etc. Donc tout un tas de récits qui sont plus ou moins délirants, plus ou moins, parce qu'ils partent tous de quelque chose de vrai. Oui, il y a des centres de rétention pour des gens qui n'ont pas commis de délit. C'est hallucinant, en fait. Voilà. Donc oui, ça part de quelque chose, comme tous les complots, comme toutes les idées complotistes, en fait. Oui, il y a Frontex qui travaille aux frontières et qui empêche les bateaux d'arriver et qui provoque des naufrages, réellement. Peut-être pas volontairement, mais réellement. Voilà. En Grèce, volontairement, parce qu'il y a du pushback. Et il n'y a pas de raison, s'il y a du pushback en Grèce, qu'il n'y en ait pas sur d'autres mers. Et donc, à ce moment-là, se rendre compte que la recherche, que la quête d'un disparu, qu'il n'y a pas que les morts, et que comment on gère les morts, et comment on fait avec le corps qui est là, il y a aussi ceux qui ont un nom, parce que quelqu'un les cherche, mais qui n'ont pas de corps. Voilà, sont les absents, sont les disparus. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tous ensemble ? Mais les morts et les disparus nous obligent, en fait. Et on ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas un début de réponse. Et alors, pour la petite histoire qui n'est pas dans le livre, mais qui est après, l'idée, c'était de demander à la Croix-Rouge une chose très simple en réalité, mais à laquelle elle n'a toujours pas... Ce n'est pas à la Croix-Rouge espagnole, c'est à la Croix-Rouge internationale. Une chose à laquelle elle n'a toujours pas répondu et à laquelle peut-être elle ne répondra pas, à savoir de donner aux familles qui le demandent, qui en font la demande et qui cherchent depuis des années leurs proches, une espèce de certificat de disparition, comme ça s'est passé après les camps, en fait, après les camps de concentration. Un certificat de disparition. Il y a 98% de risque que votre enfant soit mort. Parce que là, au moins, ça atteste. On n'a pas d'attestation sûre, on n'a pas de corps, on n'a pas d'ADN, on n'a pas de preuves scientifiques, on n'a pas de preuves. Mais si on avait au moins un papier autorisé, labellisé, qui soit encadrant, normé, etc., par une institution comme la Croix-Rouge internationale, ça serait un début de possibilité de deuil pour les familles. Voilà. Et peut-être, du coup, revenir très vite, si ça te va, sur ce qui s'est passé avec le bateau parti le 7 octobre 2020 d'une ville qui s'appelle Arzo. Je ne sais pas le prononcer, mais tu vas dire.
Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Donc ça c'est mon beau-frère qui a pris une embarcation le 7 octobre 2020. Il est parti d'Arzeu, c'est une ville, petite ville pétrolière. Donc ils ont embarqué le 7 octobre, on va dire le 8 octobre. Une semaine après, il y avait un certain monsieur Sandouk qu'on ne connaissait pas. C'est un gars qui habite à Séville, en Espagne. Donc il a fait 4 lives en disant que voilà, ces gens-là, ils ont bien accosté en Espagne. Ils sont bien rentrés, donc voilà, ils sont dans des prisons, ils vont bientôt les relâcher, on va dire. 4 mois plus tard, c'était la mi-décembre, c'était la CIPIMID. Ça, c'est une organisation qui nous a dit que voilà, j'ai eu un échange avec elle, donc voilà, par téléphone, sur WhatsApp. Elle me disait que voilà, il faut attendre que l'Algérie ouvre ses frontières parce qu'ils sont bien dans un centre de détention, donc voilà, pour le moment... Ils sont nourris, blanchis et ils sont 3 dans une chambre. Donc, ils vont bientôt les relâcher. Dès que l'Algérie ouvre ses frontières, on va bientôt les relâcher. L'Algérie a ouvert ses frontières il y a quoi ? Il y a 3 ans. Donc voilà, on est à la 4e année et toujours plus de nouvelles, on va dire.
C'était pour... Bon, on va en reparler parce que c'est quelque chose qu'on constate à toutes les frontières, mais que même après la mort, en fait... Les mafias continuent, même quand elles se donnent des noms comme ONG, qu'elles ont de l'argent, qu'elles sont, etc. Et on a parlé de cette ONG, mais il y a aussi les personnes qui travaillent à leur propre compte et qui sont, parce que la frontière est illégalisée, non pas illégale, mais illégalisée, que tout cet espace-là autour des frontières sont complètement illégalisés pour les vivants et pour les morts. Et les vivants, s'ils veulent une chance de les passer, ils doivent s'invisibiliser et donc s'illégaliser de plus en plus. Et se rendre complètement inidentifiable. Après, lorsqu'ils sont morts, il faut réidentifier, il faut essayer de revisibiliser. Et c'est tout ce travail-là qui, lorsque des frontières sont aussi floues, aussi chaotiques et aussi illégales, illégalisées, en fait, bien sûr qu'il y a des trafiquants, des vautours, des charognards, des mafias, qui quelquefois, peut-être au début, sont animés de bonnes intentions, hein, et se disent, tiens, moi, je suis un passeur entre deux pays qui sont tellement proches et pourtant ne communiquent pas, l'Espagne et l'Algérie en l'occurrence. Donc je vais, moi qui parle arabe parce que je suis d'origine algérienne, je peux peut-être parler aux familles, etc. Peut-être, on peut même leur donner cette... peut-être qu'au début, ils se disent, je vais accompagner et aider dans un bon sens. Et puis, ce qui se passe quand il n'y a pas d'institution qui norme les choses, eh ben, c'est la toute-puissance, en fait. La toute-puissance qui fait que c'est n'importe quoi, en fait. Ce que vous venez d'entendre.
Là, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question, par exemple, moi qui j'ai bien vu à la frontière Serbie-Hongrie, qui a un mur frontière qui a été construit en 2015, un peu sur une espèce de lubie ou de calcul électoral de Viktor Orban, du coup une espèce d'autocrate un peu nouveau genre, dans la lignée, dans la vague lignée des Trump, des Bolsonaro, de tout ça, qui a réussi à créer dans son pays une espèce de vague d'union sacrée sur un... Alors, après, on pourra en parler sur la France en disant que c'est exactement la même chose, que tout ce qui sont les théories du grand remplacement sont des théories du complot et correspondent absolument pas aux chiffres. Mais en tout cas, Orban a réussi à créer une espèce de xénophobie ambiante en Hongrie, avec des panneaux partout qui disent dénoncez-les, machin, tout ça, avec cet énorme mur construit, avec cette aberration absolue que, à part en 2015, quand il y a une grande vague de personnes en migration liées à la guerre en Syrie, liées à la guerre en Afghanistan, qui, pour certains, ont traversé la Hongrie, mais aucun ou très peu voulait s'installer en Hongrie. Donc tout ça, déjà, est une espèce de grande folie. Et qui, par exemple, moi, de ce que j'ai connu à cette frontière, et après, voilà, moi, j'ai passé 15 jours, 3 semaines là-bas. C'est aussi ce que j'ai dit, c'est peut-être une des différences. C'est que moi, là, il y a une douzaine de lieux, mais du coup, certains, je les ai moins poncés ou moins... Là, c'est pas à dire l'un est mieux que l'autre, hein, mais voilà. Mais que très, très vite, quand tu t'approches de cette frontière, là, tu te retrouves face aux mafias. Alors après, en tant que européen, machin, toi, en fait, tu risques pas grand-chose à part un gros bras qui vient de te dire tu dégages. Mais c'est très, très vite extrêmement présent. Et c'est logique parce que ça crée des telles zones de désespoir que, et de gens... qui sont... Parce que plus il y a de murs, en fait, plus il y a d'obstacles. Et après, on peut revenir aussi sur cette question de... Et pourtant, ils passent. Les personnes en exil, quand ils arrivent aux abords de la frontière européenne, ont déjà passé par tellement de choses qu'il n'est pas question de retourner en arrière. Et qu'il y a aussi une ingéniosité collective pour retrouver des nouvelles routes, pour retrouver des nouvelles manières de... Et que juste, elles sont plus dangereuses. Et que juste, il y a de plus en plus de morts. Et que, outre même si on était dans un logiciel macroniste de calcul, de... Bon, en fait, il y a plus ou moins le même nombre de personnes qui passent. Il y a juste des sommes démentes dépensées... dans différentes formes d'armement qui sont en même temps les forteresses statiques, mais après les forteresses mouvantes qui peuvent être des drones ultra perfectionnés, qui peuvent être... Et donc on est dans ce double effet qui se coule de l'absurdité. Et je ne sais plus, je crois que je voulais aussi rajouter un dernier truc par rapport à ce que tu disais, mais que c'est peut-être le moment où je t'avais dit « Tiens, je me perds, c'est le moment où tu récupères la parole ».
Oui, donc on a parlé des morts que produisent les frontières, et ce que montrent très bien vos deux livres aussi, c'est que parfois ces morts sont laissés mourir, enfin les vivants sont laissés tuer en fait par ces frontières de manière tout à fait consciente par les acteurs eux-mêmes qui se renvoient la balle en termes de responsabilité. Notamment, Emilien, tu montres bien qu'il y a une externalisation de ces politiques migratoires vers des pays en fait extérieurs à l'Europe via des financements massifs de l'Union européenne, notamment à la Turquie, au Maroc. Et du coup, qui laisse responsables ces pays de gérer le fait migratoire aux frontières, avec tout son lot de meurtres.
Oui, juste dire que sur ces collaborations en fait Europe et pays tiers, mm-hmm. Donc en l'occurrence Maroc, pas l'Algérie. Il faut quand même dire que l'Algérie ne prend pas d'argent européen pour comme externalisation de frontières.
En appliquant des politiques tout aussi.
Ah, c'est pas pour la, c'est pas pour défendre le gouvernement algérien, mais ouais. Mais n'empêche que voilà, non. c'est bah, au Maroc, Maghreb, voilà. Mais pas, mais voilà. Mais voilà. Donc c'est quand même la ouais. Différence.
Et non, bah c'est un des trucs qui est finalement assez peu connu et c'est d'ailleurs, enfin étonnant, non c'est pas étonnant, mais quand en matière là on approche d'élections européennes, cette question n'est absolument pas discutée. Et d'ailleurs, les grands... en fait, tous les... Je ne sais pas, moi, je continue. Là, mon livre, je l'ai fini en octobre, après le temps que mon éditeur Lambineur, machin, tout ça, il est caché quelque part là-bas. Là. Non, mais voilà, ça met du temps. Mais que depuis, bah, j'ai une veille... Et disons que j'avais beaucoup axé, par exemple, sur le Maroc, où je suis beaucoup allé, où il y a des accords. C'est souvent, ça se passe souvent par des accords binationaux, c'est-à-dire les premiers pays concernés, qui ensuite sont soutenus par l'UE. L'Espagne, par exemple, avec le Maroc, où là, en plus, vient jouer la question du Sahara occidental. Là, on en a des trucs très compliqués. On pourrait faire peut-être une rencontre spéciale dans une semaine. Bref, il y a des trucs de géopolitique, mais enfin, voilà, là, il y a des chèques énormes envoyés par l'Espagne et par l'Union européenne pour refouler les personnes exilées. Mais depuis peu, comme ça s'est reporté depuis peu sur la Tunisie, là, il y avait d'ailleurs, un mois et demi, deux mois, Ursula von der Leyen, je ne sais plus, Mélanie, machin, tout ça, qui était en Tunisie pour dire on est là. Et puis, alors, souvent, avec le langage un peu administratif de sécurisation des frontières, de dire on est là pour. Et l'exemple le plus frappant, c'est quand même la Libye, qui est connue, mais qui est. C'est depuis, je crois, 2015, qu'au début, c'est des accords binationaux, peut-être 2017. Entre la Libye et l'Italie, qui est clairement arrêter les personnes avant qu'elles sortent des zones SAR, ce qu'on appelle les zones Search and Rescue, où ensuite d'autres bateaux, et notamment les bateaux des ONG, peuvent venir intervenir. Et la réalité de ce qu'est la vie des personnes subsahariennes, qu'elles viennent d'arriver ou qu'elles soient récupérées par un bateau de... Alors en plus, c'est des situations complexes en Libye parce qu'il y a diverses milices, il y a divers pouvoirs, mais c'est torture, prison, viol systématique pour les femmes, des choses terribles d'ailleurs où non seulement l'Italie finance ça et finançait ça avant Meloni, mais où l'Union européenne aussi est venue financer ça. Et moi, j'ai eu des récits, par exemple, de gens qui me racontaient que quand ils voient que c'est ce qu'appelle la communauté des gens du sauvetage en mer, ils ont recueilli des témoignages. Disons, les gens voient que c'est les soi-disant garde-côtes libyens, parce que voilà, ça c'est la terminologie des gens du sauvetage en mer, parce que c'est tout l'inverse, c'est des gens extrêmement violents qui peuvent couler des bateaux et puis surtout qui ramènent des gens vers les prisons, et que souvent, quand ils voient que c'est les Libyens, ils sautent à l'eau, ils se suicident, parce qu'il n'est pas question de venir revivre ça. Et ça, c'est une petite partie des politiques d'externalisation de l'Europe qui continue là. Récemment, on vient d'avoir un accord avec la Mauritanie parce que ça passe de plus en plus par la Mauritanie. Et tiens, je te passe la parole.
Oui, juste un petit
c'est
truc,
sans fin, en fait. Oui. C'est des accords.
Aujourd'hui, c'est avec la Mauritanie parce que la Youn est fermée quasiment. Comme... En fait, au départ, c'était Tanger, hein, c'était Gibraltar. Quand les gens étaient à Tanger pour prendre la route, cette route-là qui, quand même, est la plus rapide, on va dire, les gens étaient délogés, étaient envoyés dans le sud. Était envoyé à La Youn en fait, hein, donc exactement, ou à Darla où il pouvait travailler dans le poisson à l'époque. Et puis maintenant c'est le contraire. Enfin après ça a été le contraire. Les gens étaient à La Youn, à Darla, et hop on les envoyait dans le nord. Hein, on les déplace violemment, hein, par la police.
Et quand voilà. Tu dis violemment, c'est on leur prend leur téléphone portable, on leur prend tout, on leur prend leurs papiers, voilà. On leur prend les trucs.
Et du coup maintenant La Youn et Darla sont fermés aussi, donc ça fait que se déplacer. Et donc les gens prennent des routes encore plus dangereuses. Qui est partir du Sénégal. Il y a énormément de naufrages au départ du Sénégal et ou de Mauritanie. Et c'est pour ça que les nouveaux accords avec la Mauritanie qui sont destinés à reprendre des Canaries, d'Espagne donc, des gens qui ne sont pas forcément mauritaniens. Et c'est, ça, c'est là-dessus que les accords mauritaniens, c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est sur le nombre des naufrages, en fait. Sur le nombre des naufrages que... On va vous donner des chiffres, ce ne sont jamais les bons chiffres. Pour des très bonnes raisons, c'est que par définition, des bateaux disparaissent. Et par définition, si quelqu'un ne cherche pas ce bateau-là, ou si plutôt quelqu'un ne sait pas que quelqu'un cherche ce bateau-là, il n'y a aucune raison qu'il soit notifié nulle part. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a énormément de familles en deuil, mais les chiffres que nous avons ne sont pas du tout des chiffres qui représentent, en fait. Je donne un exemple, deux exemples. Un exemple au départ du Maroc, un exemple au départ de l'Algérie. Un exemple au départ du Maroc, c'est il y a un an à peu près, lorsque les bateaux partaient encore de La Youn ou de Darla, nous avons avec Maria Ouko, que certains connaissent ici, que Amine connaît, et qui est très présente dans le livre, puisque nous avons créé un tout petit groupe avec Riyad Lichani, à qui est dédié ce livre d'ailleurs, qui est un grand activiste de cette route-là. Avec Maria, nous avons essayé d'appeler des journalistes. Nous avons passé un temps fou à appeler des journalistes en disant attention, il y a des bateaux complètement invisibles. Il y a des bateaux au départ du Maroc qui passent sous les radars, mais de tout le monde en fait. C'est au départ du Sahara occidental. Parce que nous avions des appels de famille, nous, c'est-à-dire Maria et moi notamment, et peut-être une autre fille aussi avec qui. Nous sommes en collectif, mais dont nous n'entendions jamais parler par ailleurs. Et on a essayé d'avertir les journalistes de l'Agence nationale espagnole, en fait, comme EFE, c'est comme l'AFP, si vous voulez, EFE. Et on a essayé d'appeler l'AFP, et on a appelé des journalistes, etc. Finalement, il y a eu un podcast fait par Taïna Intervenant qui a appelé ça les disparus, mais... Elle n'a pas pu aller au Maroc là-dessus enquêter. C'était beaucoup trop compliqué. C'était en plein moment de Sahara occidental, comme ce que tu as dit. Comment dire, il y avait des rapports entre la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Tout ça était très complexe. Elle n'a même pas pu aller enquêter. Elle a fait simplement un podcast où elle donne la parole à ceux qui ont reçu les appels. Mais pour autant, les bateaux continuaient à disparaître. Et sur la route algérienne, là, cette fois... une preuve évidente que des bateaux passent à l'as complètement et c'est que même dans notre liste que nous proposons à la fin du livre, hein, qui est une liste qui est établie par Riyad, de bateaux disparus au départ de l'Algérie. Alors, quand je dis au départ de l'Algérie, il a très peu de bateaux partis d'Annaba, alors qu'on sait que au départ d'Annaba, c'est vers l'Italie, en fait, que vont. Mais là, on s'est concentré sur les bateaux qui partent entre Oran et Alger, ou même Béjaïa, jusqu'à Béjaïa. Hein. Donc, voilà, cette route-là, en fait. Et donc, ça vous fait quelques pages. Hein, ce sont des listes, je vais essayer de la montrer. Ce sont des listes de quelques pages de bateaux. Sans les noms, parce que Riyad ne le souhaitait pas. Vous voyez, des listes et des listes. Et là, on sait que là, il y avait 17 personnes, 18, 15, 11, 13, 14. Si vous faites le compte, ça fait beaucoup. Et ce que je veux dire, c'est que sur ces bateaux-là, c'est une liste non exhaustive par définition. Hein, la preuve est le bateau du beau-frère de Amine qui n'est pas sur la liste pour la bonne raison que jusqu'à présent il a été donné comme arriver, même si on sait que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc sur ces histoires de chiffres qu'on a, je pense qu'il faut qu'on se dise tous collectivement que la réalité dépasse de très très loin tout ce qu'on pourra dire et imaginer. Et de ce crime-là, nous serons un jour comptables.
Et moi, là, juste pour rebondir, j'ai l'impression aussi qu'à un moment, ça ne marche plus. Mais alors après, moi, je n'ai pas cette solution. C'est-à-dire qu'en tout cas, les chiffres, ils peuvent grossir. Le nombre de morts en Méditerranée. Alors, en plus, mais si on y ajoutait les disparus, si on y ajoutait la réalité des choses, je suis pas sûr que ça changerait tant de choses. Et moi, là où
non,
j'y
la
vois,
la preuve, c'était Mélia, c'était en juin 2024. Ouais. Là, on a vu les corps en fait. Enfin, si on voulait voir, on voyait les corps, les corps morts, disparus. Enfin, qu'est-ce que ça a changé? On n'a pas. Là, pour le coup, on interroge la conscience du côté européen. En fait, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait en fait de ça et comment et quels sont quand en effet, comme tu le dis, les vents sont très mauvais et de plus en plus mauvais et qui soufflent très très fort. Qu'est-ce qui nous reste en fait comme voilà. Peut-être que c'est une des réponses à une des questions que tu as posées, c'est-à-dire que nos travaux, que ce soit celui d'Emilien, le mien, mais celui de Camille Schmold que tu cites, celui de Bruno Dantec et Mahmoud Traoré que tu cites aussi et que je cite aussi, celui de tellement de gens avant nous et en même temps que nous qui essaient de prendre note de ça, d'archiver. En fait, ce sont des archives pour le futur. Parce que pour le présent, là, on ne sert à rien, en fait. On ne sert à rien, à part crier qu'on brûle, en fait. Qu'on brûle tous, qu'on se noie tous.
Ouais, mais alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une urgence. Et là, si on réfléchit pour le futur, c'est vraiment horrible.
Non, mais nous ce qu'on a fait, on ne réfléchit pas pour le futur.
Non,
mais,
non,
en
mais
fait,
je sais, après, à notre très petit niveau, évidemment. Ouais. Là, ce n'est pas du tout nous donner une grande importance. Ouais. Mais pour moi, là, l'espèce d'idée fondamentale aussi qui était dans ce livre, c'était en même temps de décrire la profusion et l'explosion de ce qu'on appelle de ce que j'appelle les différents avatars de la forteresse Europe, et de voir que des deux côtés de la frontière, et pas seulement d'ailleurs du côté des gens qui à l'arrivée sont des militants blancs et qui font évidemment un super boulot, mais que de l'autre côté aussi, et là par exemple moi là je sais pas là, je cite à la Youn, j'ai juste envie de lire celle aussi de ce même Babacar de son collège Abdou, donc à la Youn, qui au sein de l'association Sakia El Amra pour la migration et le développement, où il travaille comme médiateur sanitaire, s'emploie notamment à identifier les dépouilles des personnes mortes en mer, tenant méticuleusement un registre des décès dus aux entrées glaçantes. Fait partie de l'accident du Zodiac du était sur telle embarcation de fortune avec, et informe les familles restées au pays. Celle encore des militants associatifs sillonnant au Maroc les prisons pour identifier, apportant un soutien aux personnes subsahariennes enfermées, souvent sans preuve, pour des délits mineurs ou accusées d'avoir participé à de l'organisation de traversées, sans recours possible ni défense équitable. Et après, moi, je ne sais pas, je vois dans les trucs qui me donnent un peu d'espoir, c'est quelquefois, je sais pas, moi je suis proche par exemple des gens d'AlarmPhone, enfin de certaines personnes d'AlarmPhone, je sais pas, tu voyais qu'il y a une...
Bah oui, nous aussi.
Ouais. Et aussi de trucs qui sont justement transméditerranéens, qui sont pas justes, parce que là, en ce moment, en tout cas, la vision depuis l'Europe, et qui est la vision médiatique, et qui est la vision politique, qui est de plus en plus développée, et qui est battue en brèche localement, mais c'est vraiment la vision de la submersion. C'est vraiment la version de la vague, de quelque chose qu'il faut à tout prix arrêter. Et, et inverser cette image. Alors pour moi, ça, c'est redonner des histoires. Ouais, toi, là, par exemple, c'est ce que tu fais aussi. Et même, alors après, moi, c'est un des trucs que je te disais. Moi, finalement, je parle un peu de cette question des disparus. Il y a la question du cimetière, de comment. Mais en fait, c'est tellement cette forteresse, enfin moi, ce que j'appelle la forteresse à Rope, après on peut y mettre les mots qu'on veut, mais elle est tellement forte qu'elle est venue, qu'elle frappe les gens après leur mort.
Oui, je peux peut-être en donner un exemple en lisant un passage sur le corps de notre disparu, qu'avec Riyad et Maria Ouko, nous cherchions. Donc, un corps a été retrouvé dans les environs de Roquetas del Mar le 16 janvier 2022. Le tribunal de première instance numéro 4 de Roquetas del Mar en est responsable. Ce corps est probablement celui d'un des garçons sortis sur une des pateras disparues du 2 au 3 ou du 3 janvier. Un an plus tard, les pompes funèbres de Méditerranée, San José, doivent, écrit le juge, récupérer le corps non identifié à l'Institut médico-légal d'Almeria afin de le conduire au tanatorium-crématorium qu'elle gère à Huercal d'Almeria. C'est ici qu'on trouve le mot « incinération » entre parenthèses. L'autorisation de transport du cadavre est signée à Roquetas del Mar le 20 janvier. Donc on a un corps qui n'est pas identifié, pour lequel on trouve un document sur lequel il y a écrit « incinération ». Tous les parents de disparus s'inquiètent de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que c'est possible qu'on ait incinéré notre enfant sans notre volonté? Et moi, à ce moment-là, je me rappelle très bien, puisque c'est Riyad qui m'a lancé sur cette enquête-là, je me rappelle bien avoir répondu à Riyad, c'est impossible, Riyad. On ne peut pas incinérer quelqu'un qu'on n'a pas identifié, puisque par définition, on ne sait pas qui c'est, et on ne sait pas, peut-être il est musulman, et ce n'est pas possible, selon la religion musulmane, d'incinérer un corps. Et donc, je continue l'enquête. Un autre corps, celui-là, le médecin en a estimé la mort entre le 5 et le 8 septembre 2022, est envoyé après autorisation de notre juge du même tribunal de Roquetas del Mar, le même jour, le 20 janvier 2023, dans le même tanatorium, crématorium. Ça fait deux, ça fait bizarre quand même. Celui de Huercal d'Almeria. Ce corps-là n'aura pas attendu un an, à peine quelques mois. Les Algériens n'ont pas répertorié de bateau disparu correspondant à la première semaine de septembre 2022. Riyad dit, le corps d'un Marocain peut-être à qui on a donné que 4 mois. À Almeria, je fais la liste des pompes funèbres. Il y a la nôtre, c'est-à-dire celle du juge qui ordonne ici. C'est le tanatorium, crématorium de Méditerranée, à Huercal. Il ne faut pas confondre avec l'entreprise du Sud, avec qui Mina, une autre de ces chercheuses de mort, fait des affaires. Des affaires qui ne sont pas sans doute des affaires d'argent, ni des affaires de sorcellerie, mais des exercices de puissance. Dormir auprès de la morte, puis la ramener, comme elle le dit elle-même. Au moment où j'écris ces lignes, nous avons mené l'enquête. J'ai un peu d'avance sur le lecteur, ce qui ne m'arrive pas souvent. Des deux entreprises d'Almeria, je constate qu'aucune, sur les sites qui les présentent, ne propose de services funéraires musulmans. Je vois bien Mina servir l'entreprise du Sud, celle de Marlère Rossé, en faisant gratuitement les prières et le lavage rituel que Marlère Rossé ne propose pas. Je parie, dit Jariad, que Mina se sent bonne musulmane avec ses lavages et ses prières. Entre entreprises funéraires, on partage des secrets. Ainsi, Mina savait ce qui nous est tombé dessus le 13 avril avec les ordonnances signées par les juges de Roquetas del Mar qui offraient le 20 janvier 2023 la possibilité de la crémation de deux corps non identifiés avec les précautions déjà remarquées, slash et parenthèses. Ce qui semblait une impossibilité l'est de moins en moins. On brûle des cadavres. Ce qu'on niait jusque-là, ce que redoutait tellement Riyad et sa voix s'emportait, écorchée, à présent, on en a presque la preuve. Le presque nous protège, je n'y crois toujours pas. Je faisais la liste des entreprises funéraires d'Almeria. Il n'y avait plus de rôle pour occuper au mois d'avril. À Almeria, miroir de l'autre côté des mers, pas de cimetière musulman. Cette année, les milliers de musulmans de la ville ont fêté l'Aïd dans l'espace dédié à la fête foraine. Diego Cruz, conseiller à la culture de la mairie d'Almeria, était présent. Il en profitait pour dire qu'il accédait là à la demande du président du Centre des imams d'Almeria, Abdallah Mahana, et que serait créé un cimetière dédié. Les morts musulmans pourraient reposer en paix ici même. Quant à nos deux Haraga, nous ne savions toujours pas s'ils étaient dans une terre anonyme, parcelle d'indigents, fosse commune ou partie en cendres. Je montrais les documents ambigus et secrets à Marta de la Mata, l'avocate enquêtrice de Grenade, qui s'était occupée, avec une efficacité incomparable, de l'affaire Hamza Kenich. Comme moi, elle faisait le pari de l'inhumation plutôt que de l'incinération. Marta, Maria Uco, Maria Angeles Hernandez, Riyad, bien sûr, Tony de Motril et moi-même étions dans ce que nous appelions le secret. À part Riyad, personne n'y croit, mais tout le monde tremble. Deux jours plus tard, je reçois un message sibyllin de Marta. « Je peux te parler ?» Je suis dans un endroit très calme, ma connexion est bonne, ce qu'elle dit, je le note attentivement, et ce que j'ai sous les yeux à présent, 10 jours plus tard, ce sont des notes désordonnées. Marta parle en espagnol, j'écris en français, les deux mots espagnols que j'ai copiés, comme s'ils résistaient malgré leur transparence, ce sont les mots « revision » et « mantenimiento ». Je les ai soulignés, nous avons raccroché, je voulais vomir. J'ai appelé Maria Uco, j'ai redemandé « je comprends », elle a dit oui. Nous avons voulu éclater de rire, mais ce sont des cris et des larmes qui ont jailli. En fait, les corps, non identifiés, ces deux corps-là ont été incinérés avant même l'identification qui était possible, puisqu'il y a des traces ADN qui avaient été recueillies et envoyées en Algérie, sans attendre la réponse des autorités algériennes, pour maintenir les machines d'incinération qui, en Andalousie, ne fonctionne pas assez, puisque l'Andalousie est un pays catholique et les gens ne préfèrent aussi en Andalousie ne pas se faire incinérer, préfèrent être inhumés. Et donc, on se sert de corps. Tout ça a été dénoncé depuis. Ça, c'est une enquête que, grâce à Riyad, nous avons menée, comme ça, avec une avocate bénévole qui l'a fait parce qu'elle a voulu le faire, qu'elle nous avait déjà aidé sur le rapatriement d'un corps d'un jeune Algérien à Oran. Et tout ça se fait... tout ça se découvre comme ça. Depuis, ça a été prouvé, ça a été dénoncé. El País a fait une enquête, un juge s'est autosaisi. Des gens ont été interpellés, mis en détention, et puis l'affaire se poursuit. À suivre.
Je vais peut-être lancer une dernière question avant d'ouvrir à la salle pour avoir le temps. Du coup, toujours sur cette question des morts, il y a les morts qui ont disparu, qu'on ne sait pas où trouver, quand. Ils peuvent ressurgir de la mer ou non. Des corps qui ne sont pas, mais qui sont encore là. Des corps qui rendent fous, comme tu dis, Marie. Les naufrages qu'on ne peut pas raconter, qui ne se racontent pas. Mais il y a du coup des traces qui sont laissées, des traces qui sont rejetées par la mer et qui sont l'affaire aussi des habitants qui habitent les lieux et des familles qui sont à la recherche d'eux. Dans les deux livres, ça ressort très bien. Dans le tien, Émilien, il y a cette question de muséifier ces traces, notamment... via Morsen, le maraudeur des plages à Zarzis, en Tunisie. Mais il y a aussi Nino à Lampedusa qui crée une histoire, en fait, qui est en train de se faire et qui, du coup, garde trace, en fait, de ce qui se passe. Mais il y a aussi toutes ces traces qui sont marchandisées, et c'est très fort aussi dans ton écrit, Marie, et notamment cette figure de Francisco, l'autodésigné héros de la mer, qui collectionne, conserve les traces et qui en fait son chou gras, puisque monte en live, comme tu le disais aussi, Amine, voilà, ces preuves pour faire marcher aussi les familles et leur soutirer de l'argent. Donc en fait, ces zones où il n'y a pas d'identification systématique, de recherche systématique, voilà, où il n'y a pas une prise en main aussi des autorités pour accélérer les processus ou les mettre en œuvre tout simplement, sont en fait ce vide laissé et comblé par des personnes qui en font leur marchandise, des marchands d'histoire, en fait, qui font durer dans le temps l'incertitude. Donc je voulais finir du coup mes questions autour du secret, de l'inavouable, de la rumeur, du discrétionnaire, qui font que les morts sont morts ou ne le sont pas. Je ne sais pas si je le retrouvais. Mais tu parles des morts comme des personnes formidables, je crois que tu dis ça. Parce qu'elles nous disent, elles nous disent ce qu'on est, nous vivants, en fait, nous parlent de nous-mêmes en fonction de ce qu'on fait de ces morts. Et notamment, dans vos deux écrits aussi, la question des cimetières, très forte. Est-ce qu'on crée des cimetières? Qui on met dans ces cimetières? Comment on enterre les morts ou non? Voilà. Oui. Oui.
Je sais pas si on prend Lampedusa par exemple, qui est une île qui a été énormément impactée et qui a été un des rares moments un peu de médiatisation de cette question, disons à un niveau européen dans les médias importants, avec la mort d'Alan Kurdi en 2015 et c'est tout. Enfin, récemment. Mais où il y a eu, en très peu de temps, deux énormes naufrages au large. Enfin, un au large de Lampedusa. Et où il y a eu, je crois, 363 morts. Et un entre Lampedusa et Malte. Il y en a un, c'était le 3 octobre 2013. Et l'autre, le 11 octobre. Et il y a eu. Dans l'immédiat, après ces naufrages, une espèce d'élan avec pas que des trucs dont je me sens proche. Enfin, par exemple, ça c'est peut-être pas des questions dont on va parler, mais moi, par exemple, je parle du grand désert de ces critiques, de ces questions. Dans ce qui est censé être l'extrême gauche, qui est pour moi les questions d'universalisme ou de soutien au peuple opprimé devraient être à peu près au premier rang, mais que justement ces derniers temps, la seule personne qui s'est proposée pour un accueil inconditionnel des migrants. C'est le pape François. Non, mais vraiment,
c'est ce que je voulais dire.
Ouais. Et le putain de pape François, enfin, moi qui viens d'un héritage judéo-chrétien dont j'essaye de me débarrasser, et après ce naufrage en 2013, le pape François, il venait d'être élu, ça a été son premier voyage, il est venu à Lampedusa en disant c'est plus possible, il faut qu'on humanise tout ça, il faut qu'on. Christophe Maé a écrit une très belle chanson sur Lampedusa. J'espère que tout le monde a vu mon ironie. Christophe Maé, si tu m'entends. Un petit plaisir, excusez-moi. En fait, très vite, il y a une récupération. Et moi, là, il y a un moment où je parle de ça. Maintenant, quand j'étais à Lampedusa, c'était justement le souvenir du. C'était peut-être les 10 ans. Je devais être en 2023. Ouais, les 10 ans du 3 octobre, machin. Et qui était une espèce de cérémonie mémorielle absolument immonde, avec le préfet, avec des petits-enfants blonds qui venaient chanter Nous sommes tous dans le même bateau. Enfin, c'était.
Quelle indécence.
Ouais, voilà. Et dans lequel, d'ailleurs, les personnes les plus impliquées à Lampedusa, depuis longtemps dans l'accueil des migrants, des exilés, qui n'est plus possible, d'ailleurs, maintenant, parce qu'avant, bon, je ne vais pas repartir tout en détail, mais disons qu'avant, il y a un hotspot à Lampedusa où sont parquées les personnes avant d'être envoyées vers la Sicile. Des fois, ça prend plusieurs semaines, qui avant avait un trou dans le grillage et c'était toléré. Et du coup, il y avait des échanges avec les habitants. Il y avait des. Ah oui. Ce que je raconte, c'est mon seul échange. Moi, je surveillais le Molo Favoloro, qui est l'endroit où ils sont amenés les personnes qui sont récupérées. Si tu peux voir, si tu sillonnes la côte, tu peux voir plein de gilets de sauvetage, plein de chaloupes, plein de mais d'humains, pas du tout. Et la seule personne avec qui j'avais fait coucou, c'était Pourtant, les vitres étaient, il y avait des vitres teintées, mais je voyais un petit garçon qui me faisait coucou et je lui ai fait coucou. Et moi, j'allais là-bas dans l'idée de rencontrer des personnes exilées. En fait, tout ce qui était possibilité d'échange avec les habitants, alors avec beaucoup de choses qui se passaient mal, hein, d'autant sur un territoire qui est confronté depuis si longtemps à des questions comme à Calais, mais il y avait aussi toute cette hospitalité des gens de la mer. Et juste pour finir, parce que là, il y a vraiment plein de questions qui viennent de se télescoper. Ouais, non, mais je sais pas, moi, les traces, moi, là, je veux les voir dans août 2024. D'un coup, là, il y a 10 000 personnes qui arrivent à Lampedusa. Vraiment, dernière très bonne fenêtre météo pour partir de Tunisie et de Libye. Et en 10 000 personnes qui arrivent en 4-5 jours. Et là, le hotspot qui peut accueillir 2-3 000 personnes, alors des fois, enfin moins, mais qui peut peut-être des fois grossir jusque-là dans des conditions terribles, eh bien, beaucoup de personnes arrivées qui ont fait Boza étaient dans les rues de la ville. Ce qu'on a montré BFM, et ce qu'on a montré, Marine Le Pen a tout de suite pris, Marion Maréchal Le Pen a pris tout de suite son avion pour venir faire une espèce de direct avec en fond, tu voyais quelques personnes exilées censées représenter la menace terrible, alors que 10 000 personnes pour l'Union européenne, c'est rien. C'est quand même peut-être un truc qu'il faut rappeler, que je rappelle par exemple dans mon livre, et qui est rappelé dans un très très bon bouquin, je pense, qui est présent dans cette librairie, que moi je conseille d'offrir à tous les tontons racistes ou tous les... qui s'appelle On ne peut pas en finir avec toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort. Tout petit bouquin qui vaut, je crois, 5 euros et qui vient reprendre tous les chiffres. Et c'est quoi les chiffres des migrations? Et c'est quoi? Et par exemple, c'est quoi le rôle de la France dans... Enfin, le très, très piteux rôle de la France dans la prise en charge des réfugiés. Et c'est quoi la réalité des migrations qui sont surtout intercontinentales, qui sont surtout... Et juste pour finir sur cette scène, en fait, voilà, si tu regardais BFM, c'était l'invasion, la masse incontrôlable. Et puis, sur les réseaux sociaux... Il y avait plein de vidéos qui correspondaient aussi à une certaine vérité, qui ne sont pas que la vérité, mais d'habitants qui dansaient avec les gens super heureux d'avoir débarqué, de touristes qui payaient des plats aux personnes qui venaient d'arriver, et un peu cette espèce de truc qui allait juste un peu sur un truc de... Non, en fait, c'est quand même une super bonne nouvelle. Beaucoup de ces gens partent de Libye dans des... Alors, toi, t'en parles un tout petit peu, d'ailleurs, des nouvelles conditions. Là, c'est plus la Tunisie, dans quoi ils partent maintenant, les iron boats, tout ça. Et du coup, 10 000 personnes qui ont échappé à la mort. Voilà. Et ce truc, je sais pas, moi, mon espèce de fantasme dans ce que je peux écrire ou dans ce que je peux essayer de dire, même, c'est... À un moment, et je vois ça chez toi aussi, de dire cette vision de la masse qui correspond à cette vision aussi du grand remplacement, qui, il faut le rappeler, est une théorie du complot, mais purement et simplement meurtrière d'ailleurs, mais enfin une théorie du complot, et que notre petit rôle, que peut-être des fois on aimerait bien être plus grand, parce que moi, je vais me lancer dans une carrière en politique très bientôt. Bon.
On ne le dit à personne.
On ne sait pas encore. C'est off the limit. Mais c'est juste essayer de venir inverser ça et de venir mettre des visages, des histoires d'amour, des trucs, des machins, la vie. Quoi.
Du coup, je peux rebondir là-dessus, parce que, pour reprendre aussi ta question et ce que vient de dire Emilien sur les traces et les cimetières, je pense que moi, c'est l'impuissance politique. Donc, ça rejoint ce que tu dis, Emilien, même si je ne vais pas me lancer dans une carrière politique. Donc, c'est cette impuissance politique-là qui, à un moment, me laisse un seul choix, c'est de faire à l'endroit où je suis, c'est-à-dire un tout petit endroit, en effet minuscule, ce que je peux faire, à savoir suivre les traces de quelqu'un que on va, si le corps est là et que la juge ne l'a pas identifié parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour l'identifier, l'ADN, les pièces d'identité, tout ce qu'il faut, et ben on va essayer de faire en sorte qu'on aille jusqu'à l'identifier, ce qu'on a fait pour Hamza Kenich à un moment, ce qu'on a fait pour un garçon qui est présent aussi dans ce lit qui s'appelle Soaï Boubila, qui est ivoirien, et que la juge n'a pas voulu identifier. On va l'identifier, on va savoir, on va essayer de savoir, même si la juge refuse de l'identifier formellement et à l'état civil, on va rencontrer, parce qu'on y arrive, sa famille, on va savoir qu'il est musulman, que ses parents veulent un enterrement musulman, et on va tenter de l'obtenir. Et avec un peu d'aide de communautés musulmanes en Espagne, on a réussi ça. Même si, alors le corps de Soaï Boubila, c'est une histoire, je crois que ça répond bien à la fois à la trace et à la fois à la question des cimetières. C'est une histoire qui s'est passée à ma frontière, au Pays Basque, un fleuve qui sépare l'Espagne de la France. Ça rejoint aussi ce qu'a dit Émilien sur l'aberration des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, puisque pendant un an, cette frontière a été complètement fermée, donc complètement meurtrière. 13 personnes sont mortes, des Ivoiriens, des Guinéens, des Algériens, sur cette frontière-là. Soaï Boubila s'est noyé dans la Bidassoa, qui est ce petit fleuve qu'on peut passer à gué par marée basse. Mais voilà, il s'est noyé là, pris par sans doute un tourbillon. Et la juge d'Irun, qui n'avait pas l'habitude, on ne va pas l'accabler aujourd'hui, qui n'avait pas l'habitude de traiter ce genre d'histoire, n'a pas souhaité l'identifier, alors qu'on avait plein d'éléments qui ne sont pas des éléments scientifiques, qui n'étaient pas l'ADN et qui n'étaient pas les empreintes digitales, voilà. Mais elle avait tout un tas d'autres choses. Elle avait son carnet de vaccination avec son nom. Elle avait les amis, puisqu'il y avait le téléphone avec la famille que nous, on a appelé. Hein, parce qu'un policier a bien voulu nous donner des numéros de famille. Lui-même ne savait même pas comment faire, etc. Et du coup, les parents ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est pas tant l'identification qu'il soit enterré religieusement. Et donc, on a demandé à la mosquée d'Irun, cette ville en Espagne, la famille a fait une procuration à la mosquée d'Irun afin que ce soit la mosquée qui puisse à qui elle déléguait en fait le devoir d'inhumer religieusement ce corps-là. Et c'est ce qui s'est fait. Après, il a fallu, ça a été très compliqué parce qu'un corps qui n'est pas identifié légalement, il appartient entre guillemets à la municipalité. Donc, il a fallu se bagarrer avec la municipalité pour que ce soit la communauté musulmane, l'association en question, qui récupère le corps, en quelque sorte, contre la municipalité. On a réussi ça. Mais à chaque fois, c'est du temps. Tout ça, ça vous dit, c'est inimaginable le temps que ça prend. Ce sont des mois et des mois. Quand on sait qu'un corps, il doit être inhumé rapidement et prié, etc. Donc, on finit par avoir le corps dans un cercueil. Et là, on pense qu'on va l'enterrer à Burgos. On avait déjà fait des démarches dans ce sens. Et là, on nous dit, c'était post-Covid, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place dans les cimetières musulmans, nulle part, en Espagne. Alors en France, n'en parlons pas, mais en Espagne non plus. Alors on tente le sud, l'Andalousie, en se disant, c'est plus cohérent, non plus. Et on finit par trouver un cimetière qui s'appelle El Salam, à Valence, à Valencia, en Espagne, qui est un cimetière privé, créé pour les circonstances, puisque c'était vraiment une catastrophe de ce point de vue-là. Et on paie, on se met à plusieurs, on fait une collecte à laquelle ont participé déjà en Espagne et en France. Et c'est tout, parce qu'on ne voulait surtout pas que la famille paye quoi que ce soit. On tenait vraiment à ça comme à quelque chose d'extrêmement cohérent par rapport à la démarche, parce qu'on savait justement à quel point les trafiquants, les vautours, comme on les appelle, demandent de l'argent aux familles pour des choses. Voilà. Donc on tenait absolument à ce que les familles ne déboursent pas un sou. Au contraire, qu'ils aient un peu d'argent, parce qu'on en a eu pour eux un petit peu. Et on a enterré le corps à Valence dans une concession, en fait, sans fin, on va dire, parce que ce que nous a proposé dans un premier temps le gouvernement basque, qui a fait vraiment des efforts dans ce sens-là, c'était un cimetière musulman créé pour l'occasion, mais c'était des concessions de 5 ans. Or, nous, et ça répond à ta question des traces, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de se dire ce corps sera identifié. Ça sera cette année, l'année prochaine, dans 3 ans ou dans 10 ans, mais il le sera. Parce qu'il a des enfants, parce qu'il a une famille, et parce qu'à un moment donné, sur un registre d'état civil, il faut qu'on sache qu'il est mort. Voilà, il existe, il a existé, il est passé par là et c'est de notre responsabilité collective. Voilà, donc je ne me lance pas dans une carrière politique, mais c'est faire à la hauteur de ce qu'on peut faire, mais faire jusqu'au bout, en fait. Et ça rejoint ce que tu disais, en fait, les morts nous disent qui on est comme vivant et nous accompagnent dans ce travail-là de le rester vivant et humain.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ?
Normalement, c'est assez long, mais
bon. Ouais, c'est bon. Mais, merci beaucoup déjà pour le travail fait, l'engagement pris, etc. Moi, j'avais juste envie de dire quelque chose qui est, je pense, une évidence et du coup qu'on oublie de dire à des moments, mais que je trouve hyper important à chaque fois de rappeler que tout ça vient du fait qu'il n'y a plus de système de passage facile et légal pour venir en Europe, quoi. Et ce truc-là, parce que je trouve que c'est quand même une double responsabilité, c'est non seulement l'Europe organise le non-secours et le meurtre de masse, mais en plus, c'est elle qui pousse les gens sur la route, quoi. C'est vraiment c'est un traquenard qui est assez terrible, qui en plus engage les gouvernements au sud à participer, à collaborer sur cette politique. Et ce que tu disais sur les morts nous engagent, ça me touche beaucoup parce que je pense que effectivement à double titre, c'est-à-dire que nos sociétés sont en train de s'enférocer, de se brutaliser en s'habituant à ce meurtre de masse. On voit aujourd'hui à Calais, les flics qui sont déjà pas des gens fréquentables, mais en fait ces gens-là se socialisent à des trucs d'aller percer des canaux pneumatiques dans la mer, de gazer des gens qui cherchent à prendre des canaux, etc., sur les plages, vraiment des choses qui sont terribles. Et ces CRS-là tournent, vont à Calais, reviennent, quoi. Je veux dire, nos sociétés sont en train de s'habituer et de se socialiser au meurtre depuis des années. Et je pense, quand les morts nous engagent, je pense que c'est hyper beau de le penser dans le sens de ce qu'on peut faire pour les vivants et pour les personnes qui décèdent aux frontières et les familles qui les cherchent. Et bravo et merci. Et pour toutes les personnes qui organisent ces décès, quoi. Et qui, de plus en plus, sont aussi... je veux dire, c'est un travail. Hein.
Mais les vous gens, avez bien raison de noter, de préciser que si il y a toutes ces morts, c'est qu'il n'y a absolument pas de voie légale, en fait. Pour avoir un visa, même si on a de la famille en Europe, eh ben, on n'y arrive pas, en fait.
C'est difficile.
C'est impossible. Enfin, on a tous des exemples ici de gens qui ont essayé d'avoir des visas, qui ont fait 2 demandes, 3 demandes, 4 demandes, qui ont passé un argent fou là-dedans et qui n'ont jamais eu de visa. Alors même qu'ils ont de la famille qui a travaillé en Europe pendant des années, dont les parents sont repartis après, soit au Maroc, soit en Algérie, et voilà. Et dont éventuellement le grand-père est mort pour la France. On voit ça, on a tous des exemples là-dessus. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas spécifié parce que ça nous paraît. Parce qu'on est.
Et après, moi je ne mettrais pas ça spécialement sur le dos des flics. Enfin, je tiens toujours à défendre les flics. Hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas, par exemple, Sharon, tout ça. Enfin. On voit que les bases œuvres quand l'État est à cet état-là de choisir un bouc émissaire, derrière ses servants les plus abrutis, ils vont et Calais, là tu parlais de crever les canaux, mais Calais, la dernière fois que j'y suis allé, c'était encore pire que ça, enfin, je ne sais pas s'il y a des gradations, mais c'était chaque lieu de vie, chaque lieu de regroupement, chaque endroit où il pouvait y avoir une forme d'auto-organisation ou de petit confort était tout de suite attaqué. Et pas attaqué au bout de 6 mois comme on laisse un squat et puis au bout d'un moment on l'expulse. Non, c'était des passages réguliers, toutes les 48 heures, quelquefois toutes les 24 heures. Après, moi, il me semble que ce qui se joue, se joue. Alors déjà, par, y a deux trucs. C'est une forme d'invisibilisation qui va déjà avec l'externalisation des frontières. C'est-à-dire, plus les gens meurent loin, plus on s'en fout. Ça, c'est aussi la logique même médiatique du mort kilomètre. Et donc, d'où charger des régimes encore moins scrupuleux en droits humains de faire ça à notre place. Moi, là, je connais vraiment très bien la question, enfin très bien, bien la question sur le Maroc. Mais évidemment, c'est le cas en Libye, c'est le cas en Turquie, c'est le cas là, par exemple, il vient d'avoir un nouvel accord sur l'Italie qui va avoir des camps de gestion. Merde, je sais même plus, j'ai dit en Slovaquie, mais c'est pas la Slovaquie. Oui, Albanie, oui, bien joué. Il y a, alors après, il y a encore ce nouveau truc là en matière d'externalisation qui est en train de se réaliser, mais là, c'est sur la question du Rwanda, c'est-à-dire d'envoyer toutes les personnes demandeuses d'asile en Angleterre, demandeuses d'asile en Angleterre au Rwanda, avec en plus des dirigeants qui sont vraiment au degré zéro, mais zéro de la réflexion. D'ailleurs, il y a le ministre de l'Intérieur britannique, là, qui s'est fait avoir dans un débat, qui n'était pas un débat de haute volée, mais où, en fait, il croyait que le Congo et le Rwanda étaient le même pays. Et c'est lui qui est chargé, plus ou moins, de mettre en place ces trucs. Et je pense que ce dont tu parles, c'est-à-dire des polices aux ordres et des polices prêtes à faire le sale boulot et qui le font, et qui le font en France, et qui le font à énormément d'endroits, qui le font à la frontière franco-italienne, qui le font, et puis qui le font dans d'autres pays d'Europe. Il y a vraiment des endroits où les polices sont roulibles, la Croatie, mais que c'est aussi, là, c'est tout un appareil médiatico-politique sur lequel on est en train de totalement perdre la main. Et c'est là que moi, à un moment, moi, je reviens sur le grand désert, qui, je pense, a été un calcul d'une certaine extrême gauche, à part une extrême gauche marginale, c'est-à-dire soit vraiment hors parti, tout ce qu'on appelle les no-borders, mais qui, d'ailleurs, pour la plupart, face à l'urgence, sont devenus des travailleurs sociaux plutôt que des mecs qui viennent agiter les trucs no-borders, même s'ils ont les idées no-borders en tête. Il y a le NPA qui porte une parole là-dessus, et il y a quelques personnes à LFI qui timidement, quelquefois au lendemain d'un naufrage, mais sinon le choix a été fait d'évacuer cette question en considérant que, pour moi, j'ai un très bon exemple de quelqu'un pour lequel j'ai eu un respect, puis je le connaissais à un moment il y a longtemps, enfin pas pour faire du name dropping, mais par exemple quelqu'un comme François Ruffin, qui, je sais son raisonnement, il pense perdre le vote soit des prolétaires, soit des classes moyennes, des classés. Et c'est le raisonnement, je pense, d'énormément de gens à qui j'aurais encore un tout petit peu de... Je veux dire, le PS, ils dégagent, ils peuvent tous mourir, mais à qui je donnerais un tout petit peu de crédibilité au sens d'une politique sociale, c'est de dire, OK, on a abandonné cette question. Si on l'aborde, on va perdre. Eh bien, si eux ne l'abordent pas, si les médias sont de plus en plus à l'extrême droite, si personne ne l'aborde, mais qui va à un moment venir dire stop, quand est-ce qu'on arrête de... Encore une fois, par exemple, le grand remplacement qui se répand de plus en plus, Pécresse l'a cité, et ça va... Et c'est presque devenu un lieu commun. Et encore une fois, là, on est proche de tout ce qui est Trump, de tout ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire, en l'état actuel des choses, tout ça est une vaste tartufferie. Mais tout ça prend une place énorme, et sans qu'il y ait un seul moment, dans notre camp au sens large, quelqu'un d'un peu, vigoureux, disons sincère, compréhensible, rentre dedans. Si, je sais pas, j'ai entendu Rokhaya Diallo, mais je sais même plus si elle est fille. Quelquefois, il y a des paroles, même Taubira a eu des paroles fortes, alors que c'était le gouvernement Hollande, mais bon, Elle avait, mais ça n'existe pas. Et cet abandon, qui je pense est un calcul politique, pour moi, c'est vraiment alors, l'accélération encore plus de ce qui est déjà en train de s'accélérer. Et ça, j'ai aucune réponse à ça.
Moi, je vais faire un petit pas de côté ouais. en faisant référence à un grand auteur algérien qui s'appelle Tahar Djaout. C'est un grand auteur qui a été tué pendant la décennie sanglante par le fils. Enfin, en tout cas, on a pensé que c'était par le fils. Il est mort dans son village natal. Et dans un de ses livres, avant de mourir, qui s'appelle « Les chercheurs d'os », je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Tahar Djaout, le héros quitte sa montagne en quête du corps de son frère tombé au combat lors de la guerre de libération, 56-62. Donc on parle de deux générations de disparus en fait en Algérie. On en est à la troisième génération de disparus en Algérie. On déterre un premier cadavre dont on comprend que la dent était d'argent, ce n'est pas lui. Un autre et un autre enfin, dont le crâne grimace ironiquement. On ramène les os à Dodane. On revient à la maison, au village, mission accomplie. C'est ce qu'il décrit. J'ouvre les guillemets. À l'avantage de la famille et de la mort, sœurs jumelles dont la hantise ligote en nous tous les désirs. Et puis il continue Tahar Djaout et il écrit. On meurt en croyant laisser des parents inconsolables et ce sont des vautours insatiables qui pourchassent vos os comme pour en extraire un peu de moelle. Tout le monde cherche des os. Les voleurs, les drogués, les oiseaux, les chiens, les parents, les frères et les sœurs enfermés. C'est Tahar Djaout, les chercheurs d'os. Ça fait un petit pas de côté, mais ça nous fait une ouverture sur la façon dont on ne s'en sort jamais, comme une chose se répète après une autre. Les disparus de 62, les disparus de la décennie et les disparus de la mer d'Alboran des années 2020.
Tu veux peut-être ajouter.
Il y a toujours un passage sur lequel j'aime bien finir parce qu'il me fait plaisir. Parce que je pense qu'aussi, il y a vraiment cette manière de décaler. Et là, je parlais, par exemple, on ne peut pas, de ce livre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et en finir avec une sentence de mort. Et où il dit, justement, où il dit déjà la misère, c'est pas que la misère. Et dire qu'on fasse, c'est beaucoup un catalogue de. Un tour d'horizon de tout ce que l'Europe. On a abordé que des petits trucs, comme toi, on a abordé que certains trucs. Mais qu'on fasse, justement, on n'a pas des miséraux, on n'a pas des chiens à matraque, on a des gens qui s'organisent aussi, et que c'est pas... Et du coup, il y a juste, moi, ce passage, j'aime bien finir là-dessus, c'est plus les murs sont hauts et retors, plus il faut rivaliser de techniques pour les franchir. Une sorte de jeu d'échecs, où les personnes exilées avancent aussi leurs pions, remportant souvent la partie. Il faut ainsi insister sur cette idée qui permet d'invalider cette image de passivité, trop souvent associée aux personnes en exil, ramenées à des corps martyrisés, des chairs à matraque, des êtres sans autonomie que condamneraient les politiques migratoires. Là, c'est une citation. Il y a quelque chose de l'ordre d'une poussée à l'autonomie que les entreprises de découragement et d'immobilisation parviennent difficilement à retenir, résume Camille Schmoll dans Les damnés de la mer. Corollaire, si les murs se rehaussent, c'est parce qu'en face sont déployées des stratégies collectives, des ingéniosités agissantes. Nouvelle citation. Érigeant une figure noire du danger migratoire, les discours politico-médiatiques, alors là c'est centré sur aussi les images de Mélia et des gens qui sautent, dépeignent les sauteurs de barrières comme une masse animalisée, utilisant son corps de façon primitive à l'assaut des enclaves espagnoles. Rappelez-moi, la sociologue Elsa Tisler. Pour elle, la réalité aux antipodes. Il s'agit au contraire d'un travail organisé de résistance collective, fruit d'un savoir minutieux, construit et transmis dans le temps, s'adaptant constamment à l'évolution des mesures de contrôle et de répression. D'où les assauts collectifs, d'où les crochets utilisés pour escalader les barrières munies d'un maillage anti-escalade, D'où cet épisode en 2018 où les personnes exilées ont utilisé 6 circulaires et 6 ailes pour la réussite d'un passage collectif. D'où enfin le cas réjouissant d'un exilé franchissant en décembre 2022 la barrière de Melilla en parapente, avec ce que la suggère de génie logistique dans ces conditions. Et moi, c'est une image que, ouais, que j'adore. Non, mais c'est... Bravo au parapente. Ouais, ouais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer éventuellement les échanges en aparté si vous avez envie de discuter avec Emilien ou Marie. Le temps qu'on range et puis qu'on sort tranquillement, vous avez un petit peu de temps. Merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.